La série sur la parole par les 26. Vos paroles sont des semences. Brian Kozurek. Le 1er juin 2008. Ce matin, nous lirons de nouveau au paragraphe 31 dans le sermon de Frère Branham sur la parole par Esther, la semence originale. Et nous concentrerons nos pensées sur ce que Frère Branham a dû dire au sujet de la parole étant une semence. Et j'aimerais prendre la pensée selon laquelle les paroles sont des semences. 31. Je désire prêcher ce matin sur la parole par Esther, la semence originelle. C'est Esther sur cela que je désire établir mon texte, la parole par Esther, la semence originelle. Vous remarquerez que Dieu a dit que cela produise selon son espèce. Quelle que soit la semence, celle-ci doit se reproduire selon son espèce. 32. Cette parole de Dieu est éternelle. Dieu, étant infini, Néhémie peut pas dire une chose et, plus tard, la changer en quelque chose d'autre, en une meilleure décision, parce que chaque décision de Dieu est parfaite. Une fois que sa parole est prononcée, elle Néhémie peut plus jamais mourir. Elle continue à vivre et Néhémie peut jamais mourir, parce qu'elle est Dieu. Sa parole Néhémie peut pas plus mourir que lui Néhémie peut mourir. C'est Esther la raison pour laquelle nous lisons dans le 1er chapitre de Jean, que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et, la parole fut faite chair. La même parole qui fut prononcée au commencement avec son dessein éternel, vint et fut faite chair et habita parmi nous, la parole de Dieu. Maintenant, nous avons parlé hier soir sur la manière que Dieu a placé la semence de la parole là sur la terre, avant même qu'il y eût une semence naturelle, pour sortir de cette terre. Et la parole parlait de Dieu Esther, la semence originelle. Mais remarquez que nous avons lu dans Genèse 1:11 qu'il a dit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et ensuite nous avons lu dans Genèse 2, 5 qu'il a dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est mis germain encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et cependant, le Seigneur avait déjà produit l'homme à son image en tant qu'homme esprit dans Genèse 1:26 et 27. Mais remarquez qu'en Genèse 1:11 il Esther dit que la semence était sur la terre, et au chapitre 2, 5 il Esther dit qu'aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ainsi, nous voyons que la semence était esprit, car la parole de Dieu est esprit et vie. C'est Esther ce que Jésus a dit dans Jean 6, 63. Or, vous avez entendu ma foi enseigner du haut de cette chair que la parole est une semence. Non pas seulement que la parole de Dieu soit une semence, mais toutes les paroles sont des semences. La parole de Dieu est une semence incorruptible, mais il y a aussi une semence corruptible. C'est Esther ce qui nous a été dit par l'apôtre Pierre. À Pierre 1:23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Maintenant, s'il existe une semence corruptible, il doit y avoir quelque chose autre que la vraie parole de Dieu qui est incorruptible. Chaque semence plantée produira des enfants de cette semence. En d'autres termes, chaque semence produira un produit de la nature de la semence ou la vie qui est dans cette semence. Nous avons vu cette loi de la reproduction dans Genèse 1:11 et nous la voyons aussi dans Jean 8:44 où Jésus a dit aux pharisiens, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, et Néhémie se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est sermenteur et le père du mensonge. Et également dans Matthieu 23, 28 où Jésus dit à ces pharisiens qui ont rejeté Christ, qu'ils comblaient la mesure ou le modèle de leurs pères qui ont tué les prophètes. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. 29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. 30 Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous Néhémie nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31 Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? Nous voyons encore que Jésus a parlé de cette loi de la reproduction dans Matthieu 13h37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est Esther le fils de l'homme. 38 Le champ, c'est Esther le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. 39 L'ennemi qui l'est semé, c'est Esther le diable. La moisson, c'est Esther la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. 42 Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Remarquez comment chaque semence doit être semée avant qu'elle n'ait émis puisse se reproduire. Dans le message Christ Esther révélé dans sa propre parole, Frère Branham a dit, qu'il y a trois choses que nous Néhémie devons pas faire. Nous Néhémie devons pas Malachi interpréter la parole. Nous Néhémie devons pas Malachi placer la parole. Et nous Néhémie devons pas disloquer la parole. Maintenant, pour comprendre ce que signifie Malachi interpréter, nous devons d'abord comprendre ce que le mot interpréter veut dire. Selon le dictionnaire de Webster, interpréter signifie avoir ou montrer sa propre compréhension, expliquer, donner sa propre conception de, et le mot conception vient du mot concevoir, ce qui commence le processus de la vie. Ainsi, Malachi interprété s'estère interprété à contresens ou Malachi analysé, et interprété à contresens ou Malachi analysé, s'estère donner une fausse conception ou une fausse idée. Or, si s'estère une fausse conception, alors ce n'estère pas une vraie conception. Et nous savons que la conception a un rapport avec le fait de produire la vie. Par conséquent, la mauvaise semence produit la mauvaise vie. Un mensonge estère une vérité déformée. Mais quand vous dites le mensonge comme si c'était la vérité, alors vous donnez ce mensonge à ceux qui l'entendent et le croient. Et le mensonge le plus réussi, c'est Esther celui qui Esther à 99% vrai. Parce que quand c'est Esther vérifié, si les 99% s'avèrent être exacts et l'autre 1% n'est mis l'Esther pas, alors pour chaque pourcent qui s'avère être, comme l'a dit le mensonge, ça n'est mis renforce que le mensonge. Ainsi donc, les 99% qui sont la vérité renforcent le 1% qui estère un mensonge. Mais la vie du mensonge estère une perversion. Ce n'estère pas la même vie, comme si c'était 100% vrai. Estère ce que vous me suivez? Vos paroles sont les semences qui amènent à la vie les choses dont vous parlez. Que ce soit vrai ou faux, une semence estère se met chaque fois que vous parlez. Et frère Branham nous a dit que nos pensées Néhémie sont qu'un terrain de combat pour Dieu et Satan. Ainsi, la vie qui sort de notre bouche estère soit la vie de Dieu ou la vie pervertie de Satan. Jésus a dit, l'homme est stère comme les pensées de son cœur. Et c'est stère de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, Frère Branham a dit que les paroles sont des semences dans son sermon Jésus-Christ le même 18.07-62-42. Je crois que la Bible est stère une semence. Ces paroles sont des semences. Jésus a dit qu'un semeur est stère à les semons des semences. C'est stère ça. La parole de Dieu est stère une semence. Jésus a dit que c'était ça. Alors, si c'est stère Dieu sous forme imprimée, et que vous le receviez dans votre cœur, et qu'ensuite le Saint-Esprit arrose cette semence, elle produira ce qui est stère promis. Tout genre de semence que vous allez semer, produira une récolte de ce genre-là. Exactement vrai. Nous avons semé dans ce grand réveil beaucoup de semences intellectuelles. Nous avons obtenu une récolte intellectuelle. C'est stère juste. Si nous avions semé la semence de l'Évangile, nous aurions une récolte de l'Évangile. Et nous devons retourner aux principes et aux enseignements de la Bible, revenir à la Bible, revenir au Saint-Esprit sur la parole de Dieu qui rend vivante la parole de Dieu. C'est stère exactement ce que c'était. Ainsi, quelle que soit la forme de parole que vous semez, c'est stère la forme de vie qui résultera de votre ensemencement. Et je crains que les gens Néhémie comprennent pas simplement la façon de Dieu de penser. Et cela peut être seulement parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ésaïe 55:8 car mes pensées Néhémie sont pas vos pensées, et vos voix Néhémie sont pas mes voix, dit l'Éternel. 9 autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10 comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. 11 ainsi en est stérile de ma parole, qui sort de ma bouche, elle n'y retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et c'est stère la raison pour laquelle le peuple d'Israël Néhémie comprenait jamais les voies de Dieu ou sa pensée, parce qu'ils étaient incapables de connaître les pensées de Dieu, et qu'ils n'avaient pas son esprit. Mais ils pouvaient voir les actions de Dieu, mais Néhémie pouvait pas comprendre ses voies. Psaume 103, 7 il a manifesté ses voies à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël. Paul nous dit que pour comprendre l'Esprit de Dieu nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous. 1 Corinthiens 2h11 lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est stère l'Esprit de l'homme qui est stère en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est stère l'Esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 2h13. 13 et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal Néhémie reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et Néhémie peut les connaître, parce que c'est stère spirituellement qu'on juge, un saint homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est stère lui-même jugé par personne. 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Ainsi, vous voyez que la pensée s'estère là où sont les semences de la parole et s'estère là où elles se reproduiront selon l'image de la source originale. Matthieu 13h24-30-24 Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux estère semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» 28 Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» 29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'ayez mis des racines en même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Au paragraphe 77 de son sermon, Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham a dit, 77. Vous voyez, à travers les âges, nous avons commencé à partir du fondement, à partir du premier âge de l'Église, quand la semence est rentrée en terre, la semence complète. Ensuite, elle sort à travers les pieds, Luther, remonte à travers Wesley, puis dans les pentecôtistes, les langues et les lèvres. Vous voyez? Maintenant, Esther dans les yeux, prophétique, de Malachi 4 et ainsi de suite. Et maintenant, il n'y a rien d'autre qui soit resté qui puisse venir, en dehors de lui-même pour entrer cela, parce que Esther la dernière chose qu'il y a. La chose suivante, c'est l'intelligence, et nous n'avons pas notre propre intelligence à nous. C'est la sienne. Vous voyez? Nous n'avons pas notre propre vue à nous. Maintenant, remarquez ici qu'il n'est mis fait pas référence à la vue physique parce qu'il continue disant, comment est-ce qu'un homme peut voir ces choses à l'avance? Il n'est mis peut pas le faire. C'est ce qu'est Dieu lui-même. Vous voyez? Ça s'accomplit. Et il gouverne le tout corps de cette manière. Alors le corps complet de Christ est révélé sous la forme d'une épouse qui a été tirée de son côté, comme Adam a fait au commencement tirée comme était celle d'Adam, plutôt, au commencement. Maintenant, je veux vous faire remarquer deux choses pour lesquelles frère Branham nous dit ici, qu'elles sont importantes pour nous en cette heure-ci. Numéro 1, il parle d'une semence ou porteur de vie qui est allée en terre, et il clarifie et caractérise cette semence comme étant la semence complète. Numéro 2, il décrit cette semence comme la semence du fondement, ce qui veut dire que c'est la semence originale, et d'autres semences qui viennent de cette semence porteront la même vie. Numéro 3, cette semence complète entrera dans un corps complet, et que ce corps manifestera la même vie, et vous saurez quand ce corps est totalement complet. Il grandira quand il arrivera à sa dernière étape de la vie, qui est l'intelligence, la même intelligence qui était dans la semence originale. Maintenant, point numéro 1, la semence complète. Nous savons par définition qu'une semence est un porteur de vie. Et puis qu'il parle de la manière que Christ est révélé dans sa propre parole. Nous devons alors comprendre que cette semence complète dont il parle, est Christ, ou la vie qui était en Christ. Dans Jean 1:4 il nous est dit qu'en lui était la vie. Et c'est la raison pour laquelle toutes les choses ont été faites par lui. Parce qu'il faut la vie pour produire la vie. Et il est la parole. Ainsi, cette vie est dans la parole. Et dans Luc 8:4-15 nous remarquons que la semence qui a été semée, c'est la parole de Dieu. Et cependant, nous voyons que si cette semence de la parole n'est pas semée dans un endroit convenable, elle n'est mis produira pas la vie. Dans 1 Pierre 1:23 nous voyons que la parole est également appelée une semence. Et cependant, nous voyons ici qu'il y a deux types de semences, ou de paroles qui sont semées. une semence parole incorruptible et une parole corruptible. Et la preuve que nous avons reçu la parole incorruptible dans une bonne terre, Esther que nous vivrons et demeurerons éternellement. Point numéro 2. Nous voyons que cette semence qui a été semée en terre Esther est la semence du fondement, ou la semence originale. Maintenant, frère Branham parle de Christ ici parce que nous trouvons que Jésus lui-même nous dit qu'il était nécessaire pour lui de mourir et d'être enseveli et il a comparé sa propre mort et son ensevelissement à ceux d'une semence. Jean 12h24 en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre et meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Or, nous entendons souvent frère Branham mentionner la manière que cette vie est venue dans le message de Luther, et ensuite elle a progressé à travers celui de Wesley, puis à travers le message pentecôtiste et elle a évolué jusqu'à ce qu'elle revienne finalement au repos dans l'intelligence qui est la pensée même de Dieu, de nouveau dans les gens. Maintenant, en abordant ces trois pensées ici, nous voyons que, numéro 1, la semence complète Esther un porteur de la vie complète. C'est Esther de Pierre 1, 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4 lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Numéro 2. La même vie qui a été semée dans la semence originale, laquelle Esther la vie même qui était en Christ Jésus, se manifestera en nous. Jean 16. 7 Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je n'y m'en vais pas, le Consolateur Néhémie viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Numéro 3. Cette vie de la semence originale reviendra en cette heure-ci, non pas seulement parmi les gens, mais elle entrera aussi bien en eux. C'est-à-dire que le sien 3, 4 qu'en Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Frère Branham a dit que la semence complète entre dans son corps complet. La vie complète qui était dans la semence doit revenir dans la chair humaine, dans une épouse en cette heure-ci. Ainsi, nous parlons de la semence originale, la parole, vie originale revenant de nouveau dans la chair humaine. Et c'est la raison pour laquelle il nous a dit que notre nouvelle naissance s'obtient par une semence qui est la parole incorruptible de Dieu. En effet, Jésus a dit dans Jean 6, 63 que 63 mes paroles sont esprit et vie. Et nous voyons donc que la parole est une semence porteuse de la vie éternelle. Maintenant, j'aimerais aborder cette pensée de la parole comme étant une semence, un peu de façon différente ce soir. Puis que nous parlons de la parole comme étant une semence, j'aimerais approfondir ceci, pendant quelques instants, jusqu'à notre propre niveau personnel. Maintenant, nous savons que la parole est une semence, et donc la parole de Dieu étant une semence, alors qu'elle est la vie, qui est dans cette semence? Chaque semence est une porteuse de vie. Nous le savons par définition. Mais qu'est ce qui est dans une parole? Ce sont des pensées. Avant qu'il y ait des paroles, il y avait d'abord des pensées. Alors la parole est une expression des pensées. Ainsi, par nature, les pensées dans la parole sont la vie de la parole. N'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez voir qu'une parole n'est pas seulement un son guttural, mais elle a réellement une signification. La parole dans une langue autre que celle que vous connaissez, Néhémie signifie absolument rien pour vous, et elle pourrait être assez amusante à votre audition, alors qu'en réalité pour ceux qui comprennent la langue, Ce sont des paroles très sérieuses. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 6-11 que chaque son a une signification dans une langue donnée. Et prononcer simplement des paroles qui n'ont aucune signification, n'émet fait rien pour quelqu'un. Mais quand nous nous exprimons des termes qui peuvent être compris, alors ces paroles peuvent et produiront du fruit. Dans Jérémie 6h19 il nous est dit que nos pensées produisent réellement du fruit. Dans Psaume 1-3. Nous que savons le mystère comparé à un arbre, heureux l'homme qui n'émet marche pas selon le conseil des méchants. Qui n'émet s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui n'émet s'assied pas en compagnie des moqueurs. Deux mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Trois il estère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage n'émet se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Ici nous voyons que le juste estère comparé à un arbre qui estère planté près des courants d'eau. Et il nous est dit que son fruit sera autant convenable et sa feuille n'émet se flétrira jamais. Maintenant, que veut dire Dieu par cette analogie? Bien, nous savons que Dieu compare sa parole à l'eau et la vie éternelle au fleuve de vie qui coule du trône de Dieu, comme nous le voyons dans Apocalypse 22, 1. Ensuite, nous voyons que cet homme est terre plantée. Cela veut dire qu'il n'émet se déplacera pas de là, mais qu'il est terre fixée à cet endroit, ce qui veut dire qu'il est terre enracinée, et ses racines arrivent en profondeur, et il se nourrit des eaux de la vie éternelle. Évidemment, nous savons que ce sont les eaux de vie, c'est terre la parole. Il nous est dit par Paul dans Éphésiens 5h26 que nous sommes lavés par le lavage d'eau de la parole. Et étant donné que cet arbre, ou que ce homme juste a un bon approvisionnement en eau, sa feuille n'émet se flétrira jamais. Comme Pierre l'a dit, nous naissons de nouveau d'une semence qui n'émet périra pas, la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Et ainsi, nous voyons que cela parle de la vie éternelle, car la vie dans cet arbre n'émet se flétrira jamais. Mais je veux vous faire remarquer également que la plus grande chose au sujet de cet arbre est qu'il est constant, et il produira toujours son fruit au temps convenable. Et ainsi, nous voyons que le fruit est attaché à une saison. C'est un fruit saisonnier. Maintenant, nous entendons Jésus parler de connaître un homme par ses fruits. Dans le livre de Matthieu 7h15-20, que veut-il dire par ceci? Vous le connaîtrez par ses fruits. Un examen plus minutieux de cette écriture nous permet de voir que vous pourrez dire ce qu'un homme est par son fruit. Maintenant souvenez-vous, il commence par nous prévenir au sujet de faux prophètes. Et il les appelle des loups habillés en peau des brebis. Mais il parle des fruits. Il utilise des métaphores pour faire comprendre un point. Mais quels sont ces fruits dont il parle? Certains penseraient que ces fruits sont les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair. Mais frère Branham nous a dit que le fruit c'est l'enseignement de la saison. Et nous devons nous demander ce qu'un enseignement, si ce n'émet sont pas les pensées mêmes de cette personne qu'il a fait connaître à travers les paroles. C'est pourquoi, si nous brisons ou si nous transcendons cette pensée de ce qu'est le fruit d'un homme, nous trouvons que ce sont ses pensées, ce qu'il pense. Et nous trouvons que le juste aura les pensées correctes pour la saison correcte. Ou bien pour mieux dire, le juste aura des pensées qui conviennent pour la saison. Les élus au temps de Moïse n'ont pas regardé au message de Noé pour le pain de vie dans leur jour. Ils ont reçu le message de Moïse au temps de Moïse. Maintenant, pour comprendre davantage comment notre pensée sert comparée à un jardin, nous allons prendre le livre de Proverbes 23, 7. Ici nous avons lu, car il est sert comme les pensées de son âme. Et ainsi, nous voyons que l'homme est ce qu'il pense dans son cœur. Et nous avons déjà montré que nos pensées sont comparées à la vie qui estère dans une seule anse. Donc, nous pouvons conclure qu'un homme estère ce qu'il pense littéralement, et par conséquent, son caractère, estère la somme de toutes ses pensées. Comme chaque plante ressort d'une semence qui a été cachée dans la terre, et Néhémie pourrait pas avoir commencé sans une semence, ainsi chaque action que nous faisons aussi, ressort d'une semence qui a été plantée dans nos esprits comme une pensée. C'est-à-dire pourquoi nos actions manifestent quel genre de pensée se trouve dans notre cœur. Dans Luc 6h45, Jésus nous dit que les paroles que nous prononçons viennent toutes de l'abondance du cœur. Et le mot cœur, comme nous le savons, signifie la compréhension qui estère la compilation de toutes nos pensées. Par conséquent, nos actions et nos paroles, Néhémie, sont que les fruits qui viennent pour manifester la semence, vie à l'intérieur. Dans Genèse 1h11, nous voyons dans la loi de la reproduction que chaque semence doit se reproduire selon son espèce ou sa nature. Alors, la vie qui estère dans la semence doit se manifester. Et par conséquent, aucune vie dans la semence Néhémie se manifestera en dehors de la saison convenable. Nos pensées alors sont les semences de nos actions. Et donc, si un homme estère juste, c'est estère parce qu'il a des pensées justes. Dans Proverbe 12, 5 nous lisons, « Les pensées des justes Néhémie sont qu'équité, les desseins des méchants Néhémie sont que fraude. » Alors, qu'est-ce qui distingue un homme juste d'un homme méchant? Ses pensées d'abord, et ensuite ses actions suivent. Dans Psaume 10, 4 nous lisons, « Le méchant dit avec arrogance, il Néhémie punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Frère Branham nous a dit le principe simple qu'avant que vous puissiez en faire pécher en acte dans votre chair, vous devez d'abord penser de ça dans votre esprit. C'est-à-dire pourquoi la plus grande bataille jamais livrée s'est-elle dans la pensée. Or, puisque nous savons que Dieu a créé l'homme à sa propre image, alors nous devons considérer que comme Dieu amène à la manifestation ses pensées et les désirs de son cœur, ainsi, l'homme fait de même. C'est-à-dire Jérémie 23h20, « Votre pensée est-elle alors comparée à un jardin qui fera croître les fruits? La qualité de ces fruits dépend de ce que nous faisons de ce jardin. Dans un jardin naturel, nous plantons les semences que nous voulons moissonner. Nous nettoyons notre jardin afin qu'aucune mauvaise herbe n'y pousse. Il faut travailler, et si nous semons, nous récolterons aussi. Le problème est-elle qu'il y a un autre aussi qui souhaite semer dans nos pensées. Jésus raconte la parabole des deux semeurs qui sont allés semer des semences. Le premier était le fils de l'homme et l'autre était le diable. Le fils de l'homme a semé la bonne semence, qui était la parole de Dieu. Mais le diable a semé sa propre semence parole, qui a produit l'ivraie ou de mauvaises herbes. Maintenant, nous sommes comparés aux agriculteurs qui sont responsables de ce jardin. Nous sommes censés agir comme de bons administrateurs de la bonne semence, qui estère la parole de Dieu. Mais si nous n'aimons nous intéressons pas réellement au genre de la moisson que nous récolterons, alors nous n'aimons cultivons pas la bonne semence. Nous avons simplement laissé n'importe quoi pousser. Le résultat de ceci sera à chaque fois l'envahissement de la bonne semence par l'ivraie. Les mauvaises herbes dépasseront toujours la vraie semence du Seigneur parce qu'après tout, elles sont sauvages. Et nous savons que beaucoup plus sont les enfants de la femme libre que ceux de celle qui a Esther mariée. Et ainsi, nous voyons que chaque action Esther d'abord commise dans le cœur, ou la pensée. Matthieu 12h35 L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Nous pouvons également voir ceci dans Matthieu 15, 19 et Marc 7h21. La Bible nous dit que l'homme estère selon les pensées de son cœur. Par conséquent, Nous sommes le produit de nos pensées de même que tout fruit est terre le produit de la semence qui a été plantée dans la terre. C'est la raison pour laquelle il nous est dit de renverser toute pensée qui s'exalterait soi-même contre la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, 5. Remarquez qu'il nous est dit d'amener chaque pensée dans l'obéissance à la parole de Dieu. Matthieu 12h33, ou dites que l'arbre est terre bon et que son fruit est terre bon? Ou dites que l'arbre est terre mauvais et que son fruit est terre mauvais? Car on connaît l'arbre par le fruit. Luc 3. 8-9. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et Néhémie vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui Néhémie produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Si nous sommes justes, c'est parce que nous pensons ce qui est juste. Et si vous avez votre source en Dieu, alors vous n'aurez rien à faire si ce n'est de penser les pensées de Dieu. Souvenez-vous de la parabole des deux semeurs. Les deux semeurs ont semé la semence, mais celle du Fils de l'homme a été appelée la bonne semence. Et nous voyons qu'une bonne plante Néhémie produira qu'un bon fruit. Matthieu 7h17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18. Un bon arbre Néhémie peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui Néhémie porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et Luc 6h43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On n'aime cueille pas des figues sur des épines, et l'on n'aime vendange pas des raisins sur des ronces. 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est la raison pour laquelle, si la semence originelle était disposée à laisser sa pensée aller en faveur de la pensée de son père, alors vous et moi devons faire de même, si nous serons conformes à l'image du premier-né dans une grande famille des frères, comme Paul l'a dit dans Romains 8. Mais la plupart des gens pensent pour deux raisons stupides qu'ils devraient être admirés pour penser leurs propres pensées et considérer leurs propres opinions stupides, mais ce n'est pas ainsi avec Dieu. Chaque personne qui a jamais gravi une colline de fèves dans ce monde, à laisser partir sa propre pensée, lorsqu'ils ont rencontré Dieu et compris sa pensée. C'est la raison pour laquelle frère Branham pouvait faire la déclaration suivante dans son sermon, quand leurs yeux s'ouvrirent 20.04-56-16. Maintenant, vous les érudits de la Bible, vous qui avez cherché qu'un super-homme vienne, qu'il fasse des choses simplement au hasard, il va sortir et quoi qu'il veuille faire, il le fait. Cela n'a jamais été dans la Bible. Et ça n'est sera jamais fait par les êtres mortels dans la volonté de Dieu. Si Jésus crie, aucun homme n'est mènera jamais une vie au-dessus de la sienne. Et aucun prophète à une époque donnée, n'a jamais fait quoi que ce soit sans d'abord que Dieu le lui a dit de faire. Sondez les Écritures et voyez si cela est juste. Toujours. Ce n'est pas la volonté de l'homme. C'est la volonté de Dieu qui est montrée à l'homme. Courbons nos têtes dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, août 2008. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.